Radio Prague, les informations.
Environ 300 extrémistes ont défilé à Oustina de la Bème. Manifestation contre l'extrémisme et l'intolérance à Prague et la poésie mise à l'honneur avec le prix Magnesia Litera. Environ 300 extrémistes de droite ont défilé à Oustina de la Bème samedi soir dans la ville vidée de ses habitants. Vendredi, les commerçants avaient commencé à barricader leurs vitrines et décidé de fermer boutique samedi. La manifestation s'est déroulée sans grand heurts, d'après la police. Plusieurs personnes ont néanmoins été interpellées, mais d'après le serveur actualnier.cz, du côté des opposants aux skinheads. Seul incident à noter, en effet, lorsque le cortège a rencontré celui des anarchistes. Les forces de l'ordre ont formé un cordon et empêché les deux groupes de s'affronter. La police est intervenue contre les manifestants anarchistes, tandis que le défilé d'extrême droite se poursuivait. Dans la nuit de samedi à dimanche, un cocktail Molotov a été lancé par un inconnu sur la maison d'une famille rome à Vitkov, dans la région d'Opava. L'incendie a fait 3 blessés, dont une enfant de 2 ans, grièvement atteinte de brûlures sur 80% du corps. D'après l'hôpital où la fillette a été transportée d'urgence, son état est très critique. Le maire de Vitkov a déclaré qu'il s'agissait de la première attaque contre des membres de la communauté rome dans sa ville. Le président de la République, Václav Klaus, et le premier ministre sortant, Mirek Topolánek, ont tous deux vivement condamné cet acte criminel. Et ce dimanche, en réaction, s'est déroulée à Prague une manifestation contre l'extrême droite. Suite aux divers événements du week-end, pour le moins mouvementés, le Premier ministre sortant Mirek Topolánek a annoncé qu'il souhaitait mettre la lutte contre l'extrémisme à l'agenda du gouvernement ce lundi. Il s'est dit inquiet de la montée de l'extrémisme en République tchèque et convaincu qu'il y avait un lien direct entre l'activisme politique des extrémistes et les violences faites aux personnes. Le soldat tchèque blessé en Afghanistan a été rapatrié en République tchèque et soigné à l'hôpital militaire de Prague. Son état serait stationnaire et sa vie ne serait pas en danger. Deux autres soldats ont également été blessés vendredi lors de l'explosion d'un engin sous leur véhicule dans la province de Logar. Ils ont toutefois retourné depuis dans leur base de Chank. En 2008, plusieurs soldats tchèques ont été blessés dans un cas similaire et deux sont décédés. C'est au Théâtre des États à Prague que s'est déroulée la traditionnelle cérémonie de remise de prix littéraire Magnesia Litera samedi soir. C'est le recueil de poésie manuscrit de Bohumila Gregorova qui a été désigné livre de l'année 2008, un ouvrage illustré par l'artiste Adriana Shimotova. Présentée par la comédienne Anna Geislerova, cette cérémonie en est cette année à sa 8e édition. 323 ouvrages étaient en compétition, soit 20 de plus qu'en 2008. Le livre de l'année est récompensé par une somme s'élevant à 200 000 couronnes. On finit par la météo. Un grand soleil sur une majeure partie du territoire devrait caractériser la journée de lundi, jour de fête des Marcella. Le thermomètre devrait afficher une moyenne de 18 degrés et la météo devrait rester inchangée au moins jusqu'au milieu de la semaine. C'est la fin du journal de Radio Prague, mais restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour la culture. Ah !
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, deux sujets très différents dans l'émission d'aujourd'hui. On parlera d'une exposition d'art brut et après on partira en boîte de nuit. On commence tout de suite par l'exposition. C'est notamment grâce aux efforts de Thérésie Zemankova que l'art brut s'est frayé un chemin dans les galeries et musées en République tchèque. L'art brut, vous le savez, c'est un terme proposé par Jean Dubuffet pour désigner les créateurs et artistes à la marge non académiques. La maison à la cloche de pierre expose cette fois à Prague les œuvres de la collection Prinzhorn. Hans Prinzhorn était un psychiatre et historien d'art qui, entre 1919 et 1921, a rassemblé 5000 œuvres de 450 artistes ou créateurs issus de plusieurs cliniques psychiatriques à travers l'Allemagne. Des créateurs qui, pour certains, finiront par se retrouver dans les programmes d'euthanasie mis au point par les nazis après avoir été présentés dans la tristement fameuse exposition Entartete Kunst. Hommage du vice à la vertu, celle-ci présenta en 1937 leurs œuvres côte à côte avec celles de grands artistes européens expressionnistes ou surréalistes. Nous en parlerons donc dans la première partie de cette émission avec une des commissaires de l'exposition Prinzhorn, Terezie Zemankova.
Il y a 2 ans qu'on a organisé une exposition de la collection ABCD, c'est la collection d'art brut de Bruno Descharmes, qui est collectionneur français. Et sa collection contient aussi l'art spirit, l'art des créateurs solitaires, on peut dire. Mais ici, dans la collection Prinzhorn, il n'y a que les artistes qui avaient l'expérience avec la maladie mentale.
Alors, ce qui est aussi particulier pour notamment ces artistes, mais je suppose d'autres également, c'est aussi le contexte dans lequel s'inscrivent certains de ces artistes, c'est-à-dire que certaines de ces œuvres qui sont exposées ici ont également été exposées dans le cadre d'une exposition très particulière. C'est en 1937, c'était à Munich. Est-ce que vous pourriez nous rappeler de quelle exposition il s'agit?
Cette exposition qui s'appelle Interdite Kunst, ça veut dire l'art dégénéré. Cette exposition a été organisée par Joseph Goebbels, la propagande nazie, pour montrer que l'art moderne est pervers, est dégénéré, est malade. Et pour supporter cette idée, ils ont prêté une certaine partie de la collection Prinzhorn pour montrer dans la similitude de l'art moderne et de l'art des malades mentaux que l'art moderne est aussi malade.
Ce qui est paradoxal, c'est que ces mêmes artistes modernes, surréalistes ou expressionnistes, se sentaient une véritable proximité avec ces artistes qui faisaient de l'art brut ou ces artistes, voilà, qui avaient des problèmes psychiatriques, mais qui créaient.
Tout à fait, parce que au début du XXe siècle, les artistes ont rejeté tout ce qui était académique, tout ce qui essayait de rassembler la réalité. Et ils ont essayé de créer, de faire l'art qui était très subjectif, très émotionnel, très expressionniste, on peut dire. C'était aussi Hans Prinzhorn qui était très influencé par les idées expressionnistes, par leur prisma. Il a choisi les œuvres dans sa collection. En 1922, il a publié sa livre qui s'appelle La création du malade mental, qui est devenu très très populaire parmi les artistes, pas seulement en Allemagne, mais aussi en France, parmi les surréalistes, qui sont tirés sa inspiration de la création des fous. Ici, à l'exposition à Prague, on peut voir quelques exemplaires de cette influence. On peut voir la reproduction de l'œuvre de Max Ernst par rapport avec l'original d'Auguste Natterer. On peut voir les reproductions des œuvres de Jean Dubuffet par rapport à Heinrich Antor Miller, qui l'a influencé beaucoup. On peut voir les reproductions de Paul Klee et des autres qui s'inspiraient directement par les œuvres de la collection Prinzhorn, pas seulement de la collection Prinzhorn. Et c'était parce que l'art des malades mentaux, l'art ou la création des enfants, et l'art, on dit primitif ou primaire, étaient les sources d'une liberté créative totale. Et c'était exactement ce que les artistes modernes ont cherché.
Et Joseph Forster, contrairement à d'autres artistes, a connu un destin un peu plus favorable. Certains autres artistes ont été victimes de la Führer nazie. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous rappeler le contexte?
Joseph Forster a échappé à ses destins parce que c'est sa sœur qui l'a amené à la maison en 1942 pour lui protéger des programmes nazis d'euthanasie des malades mentaux. 20 artistes de la collection Prinzhorn qui sont morts dans ce programme. C'était aussi le directeur de la clinique Heidelberg, qui s'appelait Karl Schneider, qui était un des initiateurs de ce programme d'euthanasie. C'était la même clinique où exerçait Hans Prinzhorn, mais il faut dire que dans les années 30, il était déjà mort. Il est mort en 33. Donc, il n'avait rien à faire avec ce qui s'est passé avec sa collection après sa mort.
Comment cette collection de Hans Prinzhorn a-t-elle été redécouverte?
C'était en 55 quand la collection était redécouverte dans le grenier de la clinique Heidelberg. Mais 8 ans après, en 1963, c'était Harald Zeman, l'historien d'art suisse, qui est venu à Heidelberg pour prêter à peu près 250 œuvres pour les exposer à Kunstmuseum à Berne. Ça veut dire qu'on peut considérer ce moment comme la résurrection de toute la collection, parce que c'était troisième fois quand les œuvres de la collection Prinzon se sont trouvées à côté de l'art moderne, mais maintenant dans le contexte qui est favorable et qui fait de la collection Prinzon, des œuvres de la collection Prinzon, la véritable partie de l'art du XXe siècle.
How would you say
Sans être aussi réputé que Berlin ou Paris, Prague est une capitale où la vie nocturne peut être assez entraînante, avec de nombreux clubs et boîtes de nuit, aussi bien pour les touristes que pour les locaux. Elle attire par conséquent de plus en plus de jeunes DJ qui viennent tenter leur chance dans une ville où il est encore assez facile de faire sa place. Parmi eux, un duo de DJ français, French Kiss, arrivé il y a tout juste un an, qui embrase, ou embrasse, depuis lors, les pistes de danse des meilleurs clubs pragois. Un clair velure.
Chapeau, lunettes blanches, petit look stylé, DJ Space Monkey et DJ French Peanuts, alias Frank Gampio Killy et Saïd Kamar, ont un emploi du temps bien chargé depuis leur arrivée à Prague il y a un peu plus d'une année. Informaticiens le jour, ils tournent la nuit dans les clubs pragois comme le Vertigo Club, l'Acropolis, le Duplex ou le Cross Club. DJ Space Monkey explique les raisons de leur succès.
Nous, on vient d'une culture où c'est vrai que sur le marché français, il y a énormément de choix. La possibilité d'avoir une ouverture est beaucoup plus grande. Et aussi le fait d'être expatrié te permet de voir de différentes cultures. Moi, j'ai vécu 2 ans au Danemark, j'ai commencé à écouter plus d'électro-jazz, des gens comme Trent Moller en électro. Et ça nous a vraiment permis d'élargir notre vision. Ça, notre particularité, c'est de mixer, c'est pas de dire, bon, on va jouer que de l'électro ou que de la techno. Je veux dire, la culture musicale est grande. Pourquoi se contenter de rester toujours sur un même paramètre? La différence, je pense, c'est pas qu'on est meilleur DJ que les autres, pour sûr. Mais si on regarde notre parcours depuis qu'on est à Prague, on joue dans différents types d'endroits. On n'est pas cantonné à un endroit, justement, parce que on joue différents types de musique.
Vous vous appelez French Kiss. En musique électro, on pense tout de suite à la French Touch. Est-ce que vous faites référence à cette idée-là?
Moi, je viens de Paris. J'ai grandi avec les Miskitines, Laurent Garnier, au Rex, tous ces gens-là. Donc après, je pense surtout que la French Touch à l'époque, quand on voyait Daft Punk ou Étienne de Christy ou Alex Goffer aller mixer à Los Angeles, c'est surtout qu'ils apportent un particularisme, c'est que Paris, ou la France en général, est un pays où il y a énormément de mixitude. Si on compare en Europe, c'est quand même une ville qui est très mixée. C'est-à-dire quand on se balade dans le métro à Paris, on peut voir qu'il y a Marrakech, qu'il y a l'Afrique. French Kiss, on n'a pas de référence à la French Touch. On a pensé French Kiss parce que, étant donné qu'on est expatrié, on a toujours une petite pensée pour la France. On n'est pas chez nous, on rentre rarement à la maison. Ça fait quand même assez longtemps qu'on est expatrié. Et des fois, c'est peut-être un peu compliqué. Les amis sont pas là, la famille est pas là. Mais c'était pas vraiment en rapport avec la French Touch. Mais on a un énorme respect pour la French Touch parce que ça a donné une ouverture à énormément de DJ français derrière, dans le monde.
French Kiss, il y a un petit côté aussi coquin. Le French Kiss est connu à travers le monde. Et qu'est-ce que c'est le French Kiss, d'ailleurs?
C'est un petit peu un état d'esprit. C'est aussi un petit côté vendeur. Bon, nous, on est français, on le réalise pas. Mais en vivant à l'étranger, j'ai pas mal réalisé que French Kiss, ça donne tout de suite le côté sexy, romantique, etc. Et les gens aiment bien quand même les Français à l'étranger.
J'ai aussi lu que vous commenciez pratiquement tous vos sets avec des discours de Martin Luther King ou d'Obama. Alors, c'était il y a probablement quelques mois. Est-ce que c'est toujours le cas et quelles sont les réactions quand vous faites ça?
C'est un petit peu une marque de fabrique. Quand on veut se faire un petit peu remarquer et sortir un petit peu du lot, et surtout dire attention, on arrive. Et ça permet vraiment aux gens de tout de suite nous reconnaître, quoi.
Est-ce qu'il y a un petit côté, je veux pas dire politique, mais j'imagine que vous jouez pas Obama et Martin Luther King par hasard. C'est des gens que vous devez admirer ou respecter et peut-être promouvoir d'une certaine façon.
Moi, ça vient de ma culture. Ma mère avait vu le combat de Mohamed Ali au Congo, parce que je viens du Congo. Et je suis un fan de Miles Davis, de John Coltrane. Et ces gens-là se sont battus et sont arrivés à un tel niveau musical, mais ils ont quand même dû se battre énormément parce que des fois, ils allaient dans des gigs, ils étaient, disons-le clairement, ils étaient noirs et ça passait pas. Mais comme leur musique était trop importante, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui passe. Et c'est vrai que dans ce discours d'Obama, c'est aussi pour dire qu'à Prague, le problème que nous, c'est notre opinion, mais le problème que l'on voit, c'est un problème d'ouverture. C'est-à-dire sur les musiques alternatives, qui sont dites alternatives, mais qui ne sont pas alternatives si on le voit du côté français, ou à Barcelone, dans des villes comme ça, ou New York. Mais ici, ils sonnent alternatifs. De jouer brésilien, même de jouer du Trent Moller, ça commence déjà à apparaître alternatif. Le fait de balancer Obama, c'est juste pour dire, voilà, nous on arrive et on va montrer autre chose. C'est pas forcément quelque chose de mieux. On le prend pas avec un tel snobisme. On se dit juste, on peut essayer de dire, il y a quelque chose d'autre que d'écouter du 50 Cent ou... Il y a un large choix musical.
French Kiss est devenu récemment un trio avec l'intégration de Max, un saxophoniste italien, qui permet d'enrichir les sets des deux DJ. Pour ces derniers, c'est une évolution importante dans la façon de concevoir leur musique. On écoute DJ French Monkey.
Il y a eu cette période justement avec la French Touch où les gens sont devenus des stars, des DJ stars, mais ils mettent juste un CD dans une boîte et ils arrivent à les mixer ensemble. Il y a rien d'extraordinaire. Ce qui devient extraordinaire, et je parlais avec Laurent Garnier quand il est venu à son concert il y a 2 semaines, ça fait peut-être 14 ans qu'il mixe, il est devenu une légende de la techno, mais il me disait, écoute, je commence à être content parce que j'ai mon propre groupe. Je crée de la musique, je fais de la musique avec des vrais instruments, avec des vrais gens.
C'est un peu paradoxal, le DJ passe les disques et crée pas de musique, et en même temps tu as dit au début de l'interview que c'était aussi un travail, que c'est quelque chose qui se travaille et que c'est beaucoup de travail derrière. En quoi consiste ce travail du DJ?
Le travail, c'est la culture. J'ai compris un jour une chose quand je suis parti vivre à New York. J'allais souvent dans les gigs de jazz. Et t'avais des gens qui payaient pas de mine. Mais quand tu leur disais, par exemple, hop, 1976, ils disaient, ah, 1976, Miles Davis a joué à Montreux, par exemple. Enfin, je dis une bêtise, mais ils avaient des références. Ils étaient pas musiciens, mais pour eux, la référence culturelle, la culture musicale, c'était pas juste d'écouter des musiques, c'était de connaître son sujet, de savoir pourquoi Coltrane répète 10 heures par jour, pourquoi il va jouer telle note à tel moment. Je pense que DJ, c'est pas juste venir mettre des CD. Il te faut une culture musicale. Rien que d'entendre le sax arriver, moi, ça me fait penser à Coltrane, à Charlie Parker. Et cette culture musique-là fait la différence entre un bon et un mauvais DJ. Parce que techniquement, la technique se travaille. C'est pas un problème. Je pense que c'est la base du DJ, c'est de se cultiver.
Voilà, et c'est avec ces sympathiques DJ qu'on se quitte pour cette émission, mais on se retrouve bien entendu la semaine prochaine, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le web, comme d'habitude, au www.radio.cz. À bientôt, à Roy.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc. Jarka Gregorova.
Aujourd'hui, nous allons rester en Bohême centrale, dans la région de la ville de Nymburk, Nymbursko. La ville de Nymburk est située sur les bords de l'Elbe, à environ 45 km de Prague. La ville fut fondée au XIIIe siècle, probablement par des colons allemands qui se déplaçaient en grand nombre dans le royaume de Bohême. Les écrits sur les premiers privilèges de la ville de Nymburk datent de la première moitié du XIVe siècle, époque du règne de Jean de Luxembourg. Nymburk avait le statut de ville royale. C'était une entité absolument autonome sur le plan politique, économique et culturel, car la ville était soumise uniquement au souverain. Les citoyens étaient soumis à l'autorité du bailli, du bourgmestre et des échevins. Les fortifications de la ville, un majestueux double rempart en briques et en marne calcaire, doublé d'un fossé, furent construites au XIIIe siècle. De nos jours, il reste encore une partie du majestueux rempart médiéval longeant la rive de l'Elbe, puis le grand et le petit glacis. « Dans cette ville au riche passé historique, il y a bien évidemment des monuments intéressants à admirer, dont en premier lieu le dôme Saint-Gilles, le monastère des Dominicains fondé par Przemysław Otakar II, le lycée néo-renaissance ouvert en 1907 ou le château d'eau de style Art Nouveau. Et ceux qui ne sont pas de grands amateurs d'histoire peuvent tout simplement faire une agréable promenade le long de la rive de l'Elbe et traverser un petit pont qui mène sur une île aménagée en un parc de style anglais, créé dans les années 1920. Il y a 50 ans, à l'époque où les destinations lointaines étaient pratiquement hors de portée, les berges herbeuses aux nombreux roseaux de la rivière évoquaient la Maçonnie aux adolescents. Un territoire qu'ils ne connaissaient que par la lecture et par les images des livres d'aventure de Miroslav Stingl ou de Jiří Hanzelka et Miroslav Zikmund. Nymburk est le lieu de naissance de plusieurs personnalités célèbres, telles que l'écrivain Bohumil Hrabal ou le compositeur Bohuslav Matěj Černohorský. La région de Nymburk, Nymbursko, est un pays plat au sol fertile et au paysage charmant, traversé par les reflets argentés de l'Elbe. Il existe de nombreux endroits à visiter dans cette région. Les ruines du château médiéval à Kostomlaty, l'église de l'Assomption de la Sainte Vierge à Bosin, Oskorzinek, l'une des communes les plus anciennes de la région, ou Satska avec son lac de 4 hectares, ancienne carrière de sable dans les années 1972 à 1992, et un endroit idéal pour une baignade pendant les journées torrides de l'été. Notre destination, c'est la commune de Mtseli, située à 15 km au nord de la ville de Nymburk, dominée par un château datant de la fin du XVIIe siècle. Dans la première moitié du XIXe siècle, le château a été reconstruit dans un style néoclassique. C'est à cette période que le château est devenu la propriété de la famille des comtes Thurn-Taxis, et ce, jusqu'en 1945. D'après d'anciens écrits, le dernier propriétaire en fut Luigi Torretasso. Après la nationalisation de 1948, le château est devenu propriété de l'État. Il s'est peu à peu détérioré et au fil des ans, il est presque devenu une ruine. Il y a quelques années, le château a été reconstruit et depuis 2006, il est devenu un hôtel de luxe, Château Mtseli, où l'on peut passer un agréable week-end romantique. Mais dans la petite commune de Mtseli, il y a aussi quelques monuments intéressants à voir. L'église gothique de Saint-Venceslas, avec un joli clocher en bois, la cure et un très vieux cimetière. Nymbursko fait partie des régions où il est vraiment agréable de passer les vacances. Mtseli et sa région ont fortement impressionné le célèbre poète tchèque Josef Svatopluk Machar, qui a passé à Mtseli une brève période de son enfance. Ses impressions d'enfance se sont reflétées plus tard dans ses œuvres. Et une recette ne saurait manquer. Ce sera la soupe d'orge mondée et la boulette de pâte bouillie du château. Zametsky Knedlik. Pour la soupe d'orge mondée, il vous faut 100 g d'orge mondée, 3 œufs, un oignon moyen, des bolets frais ou séchés et du persil frais. D'abord, il faut tremper l'orge mondée pendant une dizaine de minutes et le porter à ébullition dans la même eau. Après ébullition, il faut cuire encore 10 minutes l'orge. Ensuite, éteindre le feu et couvrir. Faire revenir l'oignon et les bolets mouillés avec un peu d'eau. Puis, il faut cuire le tout pendant 3 minutes et incorporer l'orge mondée. Porter à ébullition et ajouter les œufs fouettés avec le persil frais haché. Laissez cuire quelques instants et retirez du feu. Salez si nécessaire, bien évidemment. Et maintenant, la boulette de pâte bouillie du château, appelée Zametsky Knedlik. 3 pommes de terre, la moitié d'une baguette. En Bohême, on utilise des petits pains blancs de forme longiligne appelés rohliki. Ensuite, un œuf, 3 cuillerées à soupe de semoule ou de farine complète, un oignon moyen, 100 g de lard et du sel. D'abord, il faut râper finement les pommes de terre dans un récipient. Surtout ne pas jeter l'eau des pommes de terre, elle pénétrera dans la baguette. Ajoutez la baguette coupée en petits cubes, l'œuf et incorporez la farine. Ensuite, il faut bien remuer le tout et laisser reposer. Faire revenir l'oignon et le lard coupés en tout petits cubes et incorporer dans la pâte. Par la suite, formez des boules et cuire pendant 15 minutes. Il est recommandé d'avoir les mains humides afin de former les boules et de les recouvrir légèrement de farine à la fin. Il est bien de servir ce plat avec de la bière. Je vous souhaite bon appétit et vous retrouverez cette recette sur Internet. L'émission de Radio Prague se termine. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et nous sommes toujours prêts à recevoir vos remarques, idées et suggestions.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on